Raïssa, récit du pays slave, par Tola Dorian. C'était l'heure où, de la nuit mourante, l'aube à peine rosée, naît en tremblant, tout enveloppée de brume, et s'ouvre avec lenteur comme le premier regard hésitant d'une longue journée. Les immenses prairies de l'Ukraine sortaient frémissantes de leur calme et fécond sommeil. Sur la lisière d'un bois de chêne, bordé de hautes fougères et de frondaisons élancées, se détachait un couple de paysans, immobile sous la verte transparence de la feuillée. L'homme, jeune, bien découplé, les cheveux blonds coupés droits sur le front, sa sac au dos, un manteau brun, comme ceux des pâtres romains, lui tombant de l'épaule, tenait une immense faux à la main. La femme avait le type majestueux de la race de l'Ukraine, colorée et affinée par le sang moldave. Sa jupe pourpre et sa blanche chemise brodée éclataient comme une fleur énorme dans les teintes adoucies des ramures et des lointains. « Adieu, Raïssa, » disait-il dans le langage imagé, tendre et passionné de ces paysans, fils de vieux cosaques, dont les chants amoureux et héroïques rivalisent avec les épopées guerrières des Scandinaves et les lides mélancoliques des rives rhénanes. « Adieu, ma colombe, adieu, ma vie. Dans 3 mois, les foins seront coupés. Je reviendrai et tu seras ma femme. » Elle souriait. Ses yeux resplendissant d'une bonté sereine s'élargissaient tristes sous leurs franges noires. « Je le veux bien, » dit-elle simplement. Il la prit dans ses bras, la serra sur sa poitrine, puis, ôtant de son doigt un mince anneau d'or, le lui donna. « Raïssa, prends et porte cet anneau comme je te porte autour de mon cœur. Que nos garçons le voient et sachent que tu es prise, ô Raïssa, ô mienne. Adieu. » Elle mit l'anneau à son doigt et devint toute rouge, puis murmura, avec ce timbre chantant et profond de la femme slave, « Reviens, mon bien-aimé, mon maître dès 7 heures. Adieu, ma vie. Adieu. » Le faucheur partit à grands pas sans se retourner. Raïssa, de la main ombrageant ses yeux, le suivit longtemps du regard à travers les arbres où il s'enfonça et disparut. Il partait, comme chaque été partent les jeunes hommes des plaines du Dniepr, du Dniestr et du Don, pour s'enrôler dans les innombrables armées qui fauchent le foin des steppes. Il partait. Sa voix qui chantait arrivait encore aux oreilles de Raïssa, immobile, qui déjà ne le voyait plus. Quand tout écho de sa présence visible se tut, elle poussa un soupir profond et s'en retourna au village. Raïssa était la fille aînée d'un riche paysan ukrainien. Sur les bords escarpés du Dniestr, sa maison blanche et basse, faite en torchis, s'abritait d'un énorme toit de chaume, brodé d'iris et de longues graminées panachées. Un grand verger la cachait presque entièrement. 8 enfants, vigoureux et tapageurs comme des louveteaux, la remplissaient de rires et de vacarme. La mère avait de la besogne, à filer, à coudre et à cuire, pour tout ce monde exigeant et joyeux. Sans compter le père, qui n'aimait pas plaisanter, dont la main était leste, le regard impérieux et la voix dure. Il fallait que tout marche à l'heure et proprement. Raïssa était renommée dans les villages d'alentour pour sa beauté, sa force et son sévère orgueil. Jamais elle ne riait haut. Il y avait dans sa façon de danser une dignité souveraine. Quand le soir, sur l'herbe de la commune, elle menait les rondes et les chœurs des jeunes filles pendant des heures entières, elle avait un air royal. Elle balançait son mouchoir blanc comme une héronne bat doucement de son aile pâle en appelant sa couvée. Sa voix était profonde comme celle d'un homme. D'un homme aussi elle avait la gravité et la puissance de labeur. Elle ne s'essoufflait jamais. Jamais elle ne se hâtait. Le travail semblait se faire tout seul sous ses mains fortes et fines. Depuis 1 année, un garçon du village voisin la courtisait. Ils se rencontraient le soir, la journée finie. Au printemps, dans les grandes herbes fleuries. Plus tard, en été, au milieu des nappes fulgurantes de froment mûr, plus haut qu'un homme à cheval. Muet, marchant côte à côte ou assis sur un talus gazonné, appuyés l'un sur l'autre, doucement, longuement, comme ces grands oiseaux de marais, immobiles, rêvant et se serrant de l'aile, ils passaient les heures à couver leur fidélité latente, inexprimée, insondable, presque inconsciente, plongée dans le songe des prémices de leur union. Les paysans de ces pays vierges sont des poètes intuitifs. Leur langue sonore est la langue même de l'amour, leurs graves mélopées nationales en sont l'écho le plus intense. Enfin, le printemps fit place à la saison des foins. Des milliers d'hectares attendaient les faucheurs. On ne connaissait pas encore ces machines américaines qui, traînées par 2 chevaux, font plus de besogne dans une journée que 100 hommes dans une semaine. Michel Volka devait partir comme les autres. fils d'un riche éleveur de moutons, beau garçon, 25 ans, gai, généreux, brave, il était le meilleur parti de toute la contrée. Quand il s'en vint, chapeau bas, demander la main de Raïssa à son père, celui-ci l'accueillit à bras ouverts. Pressant son futur beau-fils sur sa poitrine couverte d'une barbe luxuriante qui grisonnait, il lui déclara que leur noce se ferait à la mi-octobre, avant le grand carême de l'hiver, époque de jeûne où nul ne peut manger de poisson, d'œuf ou de viande, ni se marier. Un mois après le départ de son fiancé, la mère de Raïssa mourut. Elle avait fait un effort en soulevant l'auge creusée dans un tronc de bouleau où s'abreuvent les bœufs. Prise d'horribles souffrances d'entrailles, elle expira au bout de quelques jours, quand on alluma près de sa tête le cierge des agonisants. Ses dernières paroles furent « Oh Raïssa, à présent, c'est à toi d'être la femme du père et la mère des petits, tu le sais. Surtout, veille sur Lisa. Elle me donne du souci. Il faut la tenir d'une main ferme. » Après la mort de la ménagère, Raïssa prit sa place naturellement, et sans hésitation, sans faiblesse, elle portait, du matin au soir, le poids de toute la maison, lavait, travaillait, préparait les repas, et jamais dès lors on ne la vit le soir, parmi ses compagnes, menées, hautes et fières, les rondes du village. Jamais, quand les amis vont deux par deux, les bras entrelacés, blanches sous les blancheurs de la lune, errer dans les taillis ou dans les blés de seigle, elle ne s'attardait plus avec elle. On ne la voyait plus passer avec sa démarche grave parmi la foule joyeuse les jours de foire. Le dimanche, après la messe, les jeunes gens et les jeunes filles allaient sans elle chercher les beurrés, luisant comme des boutons de cuivre entre les mousses et les fougères. Une intense et muette tristesse, empreinte sur ses nobles traits, seule démentait sa sérénité passive. Elle avait maigri, pâli, et n'en semblait que plus majestueusement belle. Son sourire était devenu rare, ses paroles encore plus. Les 3 mois s'écoulèrent. Le faucheur revint. Un soir que Raïssa avait couché les enfants, elle puisait de l'eau avec Lisa, sa sœur, moins âgée qu'elle d'un an, petite, fluette et mignonne, autant qu'elle était haute et svelte dans sa superbe structure. Les cheveux crêplés, couleur filasse, que Lisa tenait de sa mère finlandaise, la faisaient surnommer l'Allemande. Raïssa, machinalement, d'un mouvement régulier, tournait la poulie qui criait sous la corde mal graissée. Elisa folâtrait comme un jeune chien autour d'elle, sans dérier la petite mère, comme tous l'appelaient à présent. Dans le crépuscule tombant, elle se retourna tout à coup et vit son fiancé devant elle. Le seau lui tomba des mains. Muette, elle les essuya sur son tablier bleu et lui fit signe de la suivre. Ils marchaient en silence. Parvenue au bout du verger, elle s'appuya contre un arbre et, sans hésiter, lui prenant la main, les yeux baissés, de cette voix douce et profonde qui était une incarnation mélodieuse d'elle-même, elle dit lentement « Tu sais, Michel, c'est fini pour nous. » Il hocha la tête affirmativement. Il avait appris la mort de la mère. La pensée ne lui vint même pas de discuter l'arrêt de la fatalité. Il ne pouvait ôter aux orphelins leur mère. « Adieu donc, mon âme » continua-t-elle, « adieu. » Comme le jour mourant pleure le soleil disparu, comme dans la nuit pleure la colombe leur ami envolé, je te pleurerai toujours. Toi, tu dois m'oublier, sois heureux. » Elle lui ouvrit la porte de l'enceinte et le poussa doucement dehors. Il eut un gémissement de bête blessée, mais obéit. Sans se retourner, sans une larme, il partit. Alors Raïssa s'assit sur la terre et cachant sa figure dans ses mains crispées, de grands sanglots sans pleurs soulevaient sa gorge. Puis elle se leva et retourna au puits. Lisa la tourmentait, la questionnait, la plaignait, la boudait. Raïssa puisait de l'eau et de temps en temps disait avec un cruel sourire « Laisse, petite, allons, il faut finir la besogne. » La nuit, quand tous dormaient, elle, sur le banc de bois, enveloppée de son grand manteau brun, regardait les étoiles qui scintillaient à travers les carreaux fumeux de la petite croisée. Elle les voyait briller, froides et claires, si lointaine, si mystérieuse, éternelle. Elle lui semblait sans pitié, semblable à des clous d'or perçant le ciel sombre. Son âme fondit, comme fond la plaine immense couverte de neige sous les brûlures du soleil printanier. Elle se mit à pleurer en silence, longuement. Ainsi pleure une mère sur le cercueil de son premier-né. 2 ans s'étaient passés. La famille grandissait. Le père devenait plus vieux, plus taciturne. Lisa avait 18 ans. Elle était légère et insouciante, Raissa s'en tourmentait. Dès le matin, l'enfant s'élançait dehors, courait dans les champs, chantait, s'amusait et ne revenait qu'au soir tombant. Telle l'alouette monte et ripant ses tris stridents en se perdant au ciel. Elle plane, invisible dans la brume azurée, jusqu'à la fin du jour, puis retombe dans son nid caché entre les sillons, épuisée, enfiévrée, pour y dormir jusqu'à l'aube nouvelle. Lisa avait une manière de tourner la tête de côté avec un mouvement vif comme une linotte fauve, et ses rires étaient pétillants, pareils à des fusées. Elle ne supportait aucun travail, et Raissa, regardant ses poignets minces, ses frêles chevilles, ses bras souples et lisses, la grondait avec douceur, comme on gronde un jeune chat. Elle en avait les yeux verts, le museau rond, rose et velouté, les membres déliés et bondissants. Lisa caressait beaucoup Raissa. Celle-ci l'habillait et la parait comme une princesse. Lorsque, les jours de fête, Lisa mettait sa chemise de laine blanche brodée d'or et de soie rouge, passait à son cou bruni un collier de vraies perles et nouait un tablier orné de dentelles sur son jupon de pourpre, elle faisait honneur à la ménagère et la dédommageait des longues veillées d'hiver, heures de travail solitaire qu'éclairaient seules des baguettes de bois résineux, alors que calme et froide, Raissa filait le lin ou cardait la laine, laissant son âme et sa pensée se perdre dans les visions des jours finis. Deux fois déjà, Michel Volka était parti faucher les grandes steppes du Dniestre, depuis l'automne où la mère de sa fiancée était morte. Il n'était pas encore marié, le monde s'en étonnait. Il venait à présent souvent dans le village de Raissa. Pendant quelques mois, après leur séparation, il s'était tenu éloigné. On n'entendait plus parler de lui, pas plus que d'un mort. Mais, insensiblement, il était revenu parmi ses camarades. Sa gaieté, son entrain, sa belle mine n'avaient pas de rivaux. C'était lui qui menait le plus ardemment les rondes et dansait avec le plus de verve endiablée la cosaque, au milieu d'un cercle enthousiaste et brûlant. Lisa, le plus souvent, dansait avec lui, couple charmant, au milieu d'un cadre de jeunes filles et de jeunes gens entrelacés, roucoulant les tendres et sensuelles litanies qui rythment toute la comédie improvisée de l'amour, d'abord timide, hésitant, désolé, jaloux, puis heureux, vainqueur, extasié. Ils jouaient tous deux cette pantomime naïve et plastique, vieille comme le monde, éternellement jeune comme lui. Leur mimique incomparable suivait avec justesse et poésie la musique large, triste ou voluptueuse des peuples slaves, qui de la vie ne savent que le labeur et l'amour. Un jour, le village apprit que Michel était le fiancé de Lisa. On l'applaudit. Pour la famille, c'était une compensation, une sorte de fidélité. Cependant, nul n'osait en parler à Raissa, pas même son père. C'est qu'aussi elle avait un air si austère. Elle semblait porter le voile invisible d'une nonne ou d'une grande sainte brune. Ce n'était pas toujours facile de l'aborder, elle qui était si bonne avec les enfants et sa capricieuse sœur Lisa. Michel venait à présent dans leur maison. Il apportait des friandises aux petits garçons, noisettes, sucre d'orge ou grains de tournesol. Il osait à peine parler à Raissa, à Lisa jamais devant elle. Un soir qu'elle filait sa quenouille, assise sur le seuil de sa maison, Michel était étendu sur l'herbe à ses pieds, et Lisa, autour d'eux, sautillait, disparaissait, revenait, chantonnant comme un merle qui ne tient pas en place. Mais Michel et Raissa ne disaient mot. Les heures passaient, le soir s'assombrissait. Pas une fois leurs yeux ne se rencontrèrent. Enfin, il se leva de toute sa hauteur, secoua ses cheveux et partit en disant « Au revoir, il faut se lever de bonne heure demain pour aller à la ville. » Raissa ne bougeait pas, elle filait. La quenouille tournait vite, vite. Ses doigts semblaient des éclairs. Elle ne leva pas les yeux. Lisa s'était presque endormie à ses genoux, où elle était venue se jeter, lassée de son agitation perpétuelle, et sa tête blonde reposait légère sur le grand tablier brodé de sa sœur. « Pourquoi, ma colombe, ne me dis-tu pas que tu vas être la femme de Michel ?» fit tout à coup Raissa très bas. Mais si basse que fut sa voix, elle réveilla en sursaut Lisa qui se dressa, les yeux grands ouverts, rouge et tout effrayé. « Tu crois donc, continua Raissa, que je suis aveugle et que mes yeux ne savent pas lire l'amour dans les yeux des autres ? Lisa, pourquoi vous cachez-vous de moi ?» Lisa, sans répondre, se serra contre sa sœur. « Ma petite âme, réponds-moi, » dit Raissa, laissant tomber sa quenouille. « Oh Raissa, j'avais peur, tu sais. Et Michel aussi. » dit Lisa en cachant sa rose figure sous le visage très pâle de son aînée. « Lisa, » fit Raïssa en se levant tout à coup. « Ce qui est mort, oublié comme la neige de l'autre hiver. Il faut s'occuper de votre mariage, » continua-t-elle d'une voix brève. Puis, voyant Lisa en larmes, elle la prit sur son cœur, l'embrassa, lui caressa les cheveux de sa belle main brune, ramassa sa quenouille et d'un pas lent rentra dans la maison. Le lendemain, tout le village apprit que Lisa et Michel allaient être mariés le mois suivant. On fit de grands préparatifs. Les deux familles étaient riches, le mariage désiré des deux côtés. Michel, le premier moment d'embarras passé, se sentait délivré d'un grand poids. Il avait repris toute sa gaieté, son insouciance, et se sentait libre de parole et d'action devant Raïssa, qu'il traitait absolument comme la mère de Lisa. Elle était si calme, si pâle, si sereine, et lui souriait avec tant de bienveillance lorsqu'il lui parlait de sa maison, de son ménage, de ses affaires et de Lisa. Jamais un pli ne fronça son front. Seulement, elle travaillait sans relâche et, dès l'aube jusque bien après le soleil couché, elle se créait toujours de la besogne. C'est qu'aussi il fallait équiper la fiancée. Elle prépara tout, linge, habits, vaisselle. Comme pour une fille de reine, rien n'était trop beau. Elle disait, avec son sourire mystérieux, « Lisa aura deux trousseaux, le mien avec le sien. » Le matin du jour nuptial, dès l'aurore, Raïssa réveilla sa sœur avec un baiser sur le front. Les jeunes voisines, parées couronnées de fleurs, arrivèrent bientôt. On commença à habiller la fiancée. Chaque vêtement, chaque fleur, chaque bijou fut attaché avec les chants usités du rite populaire, car tout devient un symbole, rappelle un souvenir, évoque un espoir dans les cérémonies légendaires des épousailles chez ce peuple naïf et superstitieux. Puis, on l'amena devant son père qui l'attendait pour la bénir. Lisa se prosterna à ses pieds, il la releva en l'embrassant. Puis les jeunes filles et les matrones l'emmenèrent à l'église où, à leur approche, le diacre commença la bénédiction nuptiale. Les cloches sonnèrent. La procession s'approchait lentement de l'autel. On couronna le jeune couple de deux diadèmes en cuivre. On les mena trois fois autour de la table sainte. On leur fit boire le vin sacré à la même coupe. Ils échangèrent les anneaux. Le chœur entonna le cantique des cantiques. Et la cérémonie fut accomplie. Les nouveaux mariés sortirent de l'église, suivis de tous les assistants. Montèrent dans des télégas, et au triple galop partirent pour le village de Michel où devait avoir lieu le dîner de noces. Toute la journée on dansa, on chanta, on but, on rit, on s'amusa. Michel et Lisa, seuls, étaient assis, muets, sous les images saintes, au haut de la grande table. Ils attendaient le soir. À chaque nouvel arrivant, ils se levaient, saluaient et remerciaient de l'honneur qu'on leur faisait. Raïssa pensait à tout. Elle se prodiguait, elle servait, découpait les viandes, donnait à boire. Elle ne sentait point de lassitude. Le père de Michel la regardait avec admiration. Enfin, le soir vint, et pendant qu'autour de la maison, dans le verger lumineux au clair rayon de la lune, les jeunes filles et les garçons chantaient l'hymne de l'épousée, Raïssa mena sa sœur dans la chambre nuptiale où l'avait fait le lit, et préparait la chemise de la mariée, selon la coutume des mères. Puis, lui prenant les deux mains, elle la regarda longuement. Deux larmes limpides coulaient sur ses joues amaigries. « Sois heureuse, sois très heureuse, ma colombe, » murmura-t-elle tendrement en la serrant avec force dans ses bras. « Petite, petite Lisa, » dit-elle avec un sanglot terrible. « Bonsoir. » Puis, sur le front de la mariée, elle mit un long, un grave, un maternel baiser. Raïssa ne voulut pas retourner avec les autres convives de la noce dans les télégas. Ils partirent sans elle, chantant, hurlant, bousculés et bousculant. Elle revint chez elle à pied, tranquillement, à travers les prairies endormies, sous les lueurs veloutées de la lune. Elle marchait, les yeux droits devant elle, les lèvres serrées et d'un pas très régulier. L'aube se rosait quand elle ouvrit le loquet de sa porte. Elle entra dans la cuisine et se mit à préparer la soupe des enfants. C'était Raïssa, récit du pays slave, Bartola d'Orient.